Hey, petite question avant votre épisode, vous êtes où là? Vous écoutez ce podcast pendant une douche express ou sur le trajet du boulot? Alors allons à l'essentiel. Et si je vous disais qu'il existe un produit pour prendre soin de vos soucis de peau de la grossesse au postpartum? Je suis heureuse de vous présenter le nouveau produit d'une marque que j'affectionne depuis ma première grossesse en 2010, l'essentiel maternité de Mustela, un lait certifié bio, multi-action, compatible avec l'allaitement, qui permet de prévenir et d'apaiser les vergetures, les démangeaisons et les tiraillements, et passer un moment rien qu'à soi. L'essentiel maternité par Mustela, le produit que j'aurais vraiment aimé trouver. Allez à l'essentiel et bon épisode. Bienvenue sur le podcast Un temps pour naître. Je suis Edwige, et dans la vie je suis accompagnante périnatale. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Eh bien, mon rôle, c'est d'apporter du soutien, une oreille attentive, une épaule soutenante, du bien-être, des informations et des outils aux futurs et jeunes parents dès le désir d'enfant. Vous l'aurez compris, c'est un métier passion que j'exerce à Vannes, en cabinet et en visio, depuis 2020. En fait, ce qui me passionne, moi, c'est l'humain. Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur, et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute. Hello, bonjour. Je vous présente aujourd'hui un épisode que j'ai enregistré en duo avec Antoine qui a fondé Moulasana, un accroupisseur suspendu. Alors ce n'est pas un podcast commercial à proprement parler, Antoine, je lui ai demandé d'intervenir parce que j'aime beaucoup son approche, c'est-à-dire que au-delà du produit qu'il a créé, il l'a créé vraiment avec une foi inébranlable vers un mieux-être pour les femmes particulièrement, donc c'est vraiment ce qu'il m'a expliqué, hein, même si les hommes ont tout à y gagner, parce que, donc vous allez le voir dans l'épisode, il raconte son vécu, mais... Il s'est vraiment rendu compte en tant que thérapeute de la difficulté que peuvent avoir les femmes avec leur plancher pelvien et des conséquences que ça peut avoir. Et donc au-delà de ces constats, finalement, il a compris qu'il y avait des choses à faire, notamment dans l'usage des toilettes. Et donc c'est un gros tabou auquel il s'attaque, Antoine, et en même temps plein de bon sens finalement, dans l'idée que aller aux toilettes accroupi réduit beaucoup de risques et que notre monde occidental nous a pas forcément aidé au-delà des transformations corporelles que peuvent vivre les personnes et notamment les femmes avec la grossesse, l'accouchement, le postpartum, qui sont pas censées forcément nous mettre en détresse dans le plancher pelvien. C'est un vécu fort, mais on a le droit aussi d'avoir des commodités autour de nous qui nous permettent de temporiser. Donc on connaît pas mal de choses, en tout cas en tant qu'accompagnante, pour pouvoir aider à cela, mettre du froid sur la zone en période d'hémorroïdes par exemple, relever les pieds avec un marchepied quand on allait. Mais au niveau des toilettes, finalement, il est fort intéressant qu'Antoine nous explique que le marchepied est qu'une demi-solution. Et il se bat depuis longtemps maintenant pour... pouvoir proposer à grande échelle un dispositif plus adapté sur nos toilettes modernes. Donc j'ai trouvé intéressant d'avoir son recul à lui, qui m'a beaucoup enrichi dans cet échange, donc je vous laisse sans plus attendre le découvrir, et je suis sûre que vous aussi ça pourra vous apporter certaines informations. Encore une fois, au-delà de sa proposition qui me semble très pertinente, et je vous ferai un petit retour d'expérience parce qu'il m'a proposé de tester son Moulasana. Au-delà de son produit, c'est vraiment la réflexion sur comment traiter nos périnées au quotidien. Et ce qui nous permet aussi d'amorcer une réflexion sur comment on se comporte quand on va aux toilettes, parce que, ok, c'est un sujet intime, mais on y va quand même plusieurs fois par jour, toute notre vie. Donc voilà, je m'étais dit qu'aborder ce sujet-là était vraiment important, parce que, tout simplement, on n'en parle vraiment pas, quoi. Et c'est un vrai problème de santé publique quand on voit le nombre de femmes constipées, qui ont des descentes d'organes aussi, à partir d'un certain âge. Eh bien, il n'y a pas juste la rééducation ou juste rester en horizontalité en postpartum, et ça c'est très important et j'en parle souvent, mais il y a aussi voilà, la façon dont on va aux toilettes. Donc je vous laisse découvrir mon échange avec Antoine. Bienvenue dans l'épisode du jour où je ne suis pas seule et pour innover totalement, j'ai fait venir un homme dans le podcast Un temps pour naître, ce qui bien sûr est tout à fait possible et intéressant, mais qui est assez rare finalement, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent la parole sur les sujets qui concernent la femme. Mais toi, Antoine, de son prénom, a plein de choses à nous partager. Donc on va parler du périnée des femmes,
Tout à fait.
Si je peux résumer le sujet qui nous lie aujourd'hui.
Oui.
On va parler... Je veux bien que tu introduises en fait le sujet qu'on va vraiment aborder finalement avec tes mots.
Ouais, tout à fait. Donc, je m'appelle Antoine Lahorgue, je suis praticien de shiatsu et de massage à Nantes depuis 2015 et porteur du projet Moolasana et aussi du sous-projet EasyPlouf dont on parlera peut-être un peu plus tard, qui propose donc un retour à l'accroupi complet aux toilettes pour le bien-être de tous, mais surtout de toutes. Parce qu'on va le voir, c'est surtout les femmes qui aujourd'hui ont tout à changer, ont tout à gagner à changer d'ergonomie sanitaire.
D'accord, donc c'est vraiment la posture au niveau du plancher pelvien finalement qui pose aujourd'hui problème. Et donc on va aujourd'hui élaborer une réflexion sur pourquoi aujourd'hui le monde occidental nous a pas aidé sur notre physiologie d'humains, mais surtout de femmes, parce que les femmes rencontrent des variations hormonales, périnatales, plus que les hommes, hein, on est bien d'accord, c'est
tout
aussi pour
fait.
Ça.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Et comment on peut adapter pour mieux se respecter, quelles problématiques ça fait émerger. Toi, comment t'en es venu à aborder ces questions dans ta vie, Antoine?
Ben moi, donc évidemment, praticien de shiatsu et massage, donc très intéressé par le bien-être, la mobilité naturelle, l'énergétique chinoise, depuis 2015 et 2016, mes premiers voyages en Inde. C'est là où j'ai vraiment redécouvert personnellement les bienfaits de l'accroupi complet aux toilettes. Au début, ça m'a paru, je dirais comme tout occidental, étrange, cette façon d'aller aux toilettes. Et en fait, au bout de, je dirais, de 2-3 semaines, je me suis rendu compte que c'était vraiment le jour et la nuit pour moi. Et que j'ai décidé tout simplement de plus jamais m'asseoir sur des toilettes. Je me suis rendu compte qu'avant, j'avais des problématiques de transit que je n'avais pas conscientisées. La sensation de ne pas avoir fini, des gênes en sortant des toilettes, et puis surtout le temps de passage aux toilettes n'était pas du tout le même, et un vrai sentiment de satisfaction. Et donc de retour en Occident, j'ai déjà pris l'habitude de m'accroupir sur les cuvettes occidentales, ce qu'une petite partie de la population fait sans vraiment en parler. Ce qui est assez inconfortable, un petit peu dangereux, il y a toujours la peur de glisser. Bon, avec le temps et comme j'ai une bonne souplesse, mobilité, ça se fait, mais c'est quand même pas à conseiller à tout le monde. Et puis chez moi, j'ai construit un gros prototype en bois, quelque chose de solide qui vient se prendre appui au sol, fixer dans les murs et donc qui offre des supports de pied au niveau de la cuvette.
Et tu l'as fait d'abord pour toi?
Ouais, pour moi, pour l'accroupi complet, mais aussi et surtout, en fait, c'était coïncident avec le premier accouchement de mon ex-compagne. Et donc, ça lui a permis, en fait, de soigner aussi ses troubles postpartum, notamment ses hémorroïdes, en seulement 2 semaines après plus de 2 mois d'entretien de ces troubles-là. Donc ça, c'était vraiment, je dirais, la genèse, l'origine de l'idée de l'accroupi complet pour moi, en tout cas. Et puis en 2018, j'ai changé la lunette de mes toilettes. Et là, j'ai eu un petit moment eureka où je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que j'ai construit ce gros proto en bois? En fait, une plateforme robuste pourrait s'adapter sur toutes les cuvettes.
À la place des lunettes?
Entre la cuvette et la lunette,
d'accord,
en fait.
Okay.
L'idée, c'est de démonter la lunette. On a les 2 trous de fixation à l'arrière de la cuvette. On fixe donc Moolasana, le premier accroupisseur suspendu, qui est donc une lunette améliorée qui permet de s'accroupir complètement.
On pose ses pieds, quoi.
On pose ses pieds, ça fait 2 supports de pieds, un peu comme 2 oreilles à l'avant de la cuvette, et c'est dimensionné pour recevoir l'entièreté du poids d'un adulte. Et on peut remettre au travers donc la lunette, ça permet de choisir sa posture, en fait. On peut donc monter sur Moolasana et s'accroupir complètement, ou rabattre la lunette de manière classique et s'asseoir, éventuellement utiliser un marchepied qui est donc la solution intermédiaire que moi j'appelle le semi-accroupi, qui est intéressant parce que facile d'accès pour tout le monde, mais qui n'offre pas les mêmes avantages que l'accroupi complet.
Quoi. Ouais.
Mais en fait, la vraie différence, Squatty-Potty qui a été vraiment le premier projet qui a fait parler de lui, qui est né en 2011 aux États-Unis et qui a fait beaucoup parler de lui en 2015. Ouais, Squatty-Potty, ils ont fait une grosse campagne de com en 2015 où on voit un prince charmant qui explique les principes de l'ouverture du canal rectal avec une licorne qui fait ses excréments dans un pot de glace. Donc ils sont vraiment partis sur de l'humour très pipi caca. C'était très drôle et ça a fait le buzz, ça a vraiment
Ok.
marché. Et c'était vraiment voilà, le premier marchepied qui a fonctionné d'un point de vue commercial, qui a été vraiment copié en Occident, en Europe, par de nombreuses marques. Maintenant, il y en a plein, il y a un nombre très grand de marques qui proposent un marchepied de toilette. Et pourtant, il n'y a pas de vrai leader, un peu comme Squatty Potty, en Europe. Et ils ont balancé cette idée-là que la posture physiologique, c'est l'angle 35 degrés, c'est-à-dire relever ses pieds et se pencher en avant. Et en fait, la réalité, elle est plus complexe que ça, parce qu'il y a des études qui vont comparer le marchepied, le fait de relever ses pieds ou d'être en accroupi complet, et qui démontrent qu'en fait, simplement relever ses pieds n'est pas
C'est pas
suffisant
suffisant.
pour ouvrir le côlon. Ça favorise une meilleure pression abdominale, plus naturelle, donc c'est à utiliser, on devrait avoir
C'est
des
mieux
marchepieds partout,
que les
ouais, tout à
toilettes
fait, ouais.
normales, quoi. Ouais.
On devrait en avoir partout, et c'est hallucinant qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait 35% des femmes et 10% des hommes qui relèvent déjà leurs pieds aux toilettes, on n'en voit pas partout dans les lieux publics, dans les entreprises, ça devrait être déjà le béaba. Donc ça montre bien qu'il y a déjà pas d'évolution, ne serait-ce que sur le marchepied. Et donc, en fait, la vraie différence entre l'accroupi complet et le semi-accroupi, c'est là où repose le poids du corps. Quand on est en accroupi complet, le poids est entièrement sous les pieds.
Décentré.
Sous les pieds et pas sur les fesses, en fait.
Ouais.
On a encore le poids sur les fesses quand on relève les pieds. Et donc, en fait, il faut l'entièreté du poids du corps pour étirer les chaînes postérieures, donc les dorsaux, les fessiers, les ischios, qui sont les muscles les plus puissants du corps, et créer, en fait, une vraie ouverture au niveau du bassin, et donc ouvrir la sortie du côlon, le canal rectal.
D'accord. Mais du coup, pour revenir un peu à cette problématique là occidentale des toilettes qu'on connaît pour toutes les personnes qui vivent en France ou aux pays aux alentours, etc. Quelle est la problématique en fait? Qu'est-ce que ça fait de pas aller à évacuer les selles, les urines? Alors, ok, on est sur un sujet tabou, vous avez compris quand même, et ça fait partie entièrement de ton projet aussi, cette question du tabou. Mais en fait, c'est une question de santé publique finalement. Qu'est-ce que tu peux nous dire du problème de cette posture où on va aux toilettes et finalement on est à un angle à 90 degrés?
En fait, pour moi, il y a trois grands problèmes qui sont, je dirais, assez dissimulés dans cet objet extrêmement commun, banal pour nous occidentaux, des
Oui, c'est ça.
cuvettes.
On a grandi avec
C'est
ça
ça,
paraît
on est
pas.
habitué. Alors déjà, pour remettre les choses en perspective, c'est un objet une ergonomie qui existe depuis la fin du 19e. Ça nous
Très
vient
récent.
de la royauté anglaise, mais c'est encore plus récent que ça a été adopté en masse. C'est après-guerre, c'est après la Seconde Guerre mondiale. C'était un objet qui était un peu réservé à la bourgeoisie, voire à l'aristocratie, et qui s'est ensuite popularisé avec la révolution industrielle et commerciale. Et c'est vraiment à partir des années 50-60 que c'est devenu un objet de bien commun où tout le monde avait sa voiture et ses cuvettes en céramique à la maison. Donc en fait, on n'a pas du tout de recul à l'échelle civilisationnelle sur l'impact que ça a sur notre santé. C'est tout récent.
C'est
Il y a
récent les reculs.
60 ans, c'était hier à l'échelle de l'humanité,
Ouais,
quoi.
puis c'était une révolution
C'est ça. Et
technologique.
surtout un privilège. C'est le privilège, ça vient vraiment de la royauté, on ne l'appelle pas le trône pour rien, les
Ah.
toilettes. C'est que c'était vraiment. Si les riches le faisaient, si les riches avaient
C'est
ça,
que
il nous
c'était
fallait
bien.
la même chose. Et en fait, ils ont fait d'un point de vue ergonomie un copier-coller de ce qui se faisait dans la royauté, dans les châteaux de l'époque. C'était la chaise percée.
D'accord.
Avec le fameux Louis XIV qui déféquait en public et on analysait ses selles. Et il y a vraiment cette supériorité, en fait, d'être en capacité de faire ses toilettes,
Ouais.
de faire ses besoins en posture
En
assise,
hauteur,
en
vis-à-vis
hauteur.
de la
On est
populace.
séparé, c'est ça, de ce côté sale, de ce côté bas, de ce côté animal aussi, parce qu'il y a vraiment ça, cette dissociation entre le bien, le mal, le propre, le sale. Et donc c'est vraiment pour moi le fruit, ou pour pas dire le symptôme de toute cette séparation qu'on a fait entre les pauvres, les étrangers aussi, par exemple le nom toilette turque. Elles ont absolument rien de turc, les toilettes. Et c'est juste que pour nous, ça représentait un peu le monde arabe, un peu plus loin vers
un
l'est,
peu barbare.
les barbares, les autres, les musulmans, ceux qui font des choses différemment. Donc voilà, c'est pour montrer qu'en fait, ce sont vraiment des barrières, des limitations culturelles et que ça participe vraiment à notre identité occidentale. Parce qu'on les appelle les toilettes modernes. Et remettre en question ce symbole-là pour nous aujourd'hui, c'est vraiment compliqué parce que c'est s'attaquer à un privilège, c'est s'attaquer à notre apparente modernité et peu sont capables de. Enfin, souvent d'ailleurs, on le vit mal quand on voyage et qu'on est confronté à des toilettes au sol. Pour nous, ça peut être vécu facilement comme une régression, comme quelque chose de barbare et de primaire. Mais j'ai pas du tout répondu à ta question, c'était
Non,
quel
mais
était
ça faisait
l'impact?
partie des questions
Ouais.
aussi, hein, de toute
Quel
façon.
était l'impact? Alors, donc les trois problèmes. Le premier, c'est que donc nos cuvettes, leur forme, leur ergonomie supposent le contact du fessier avec les toilettes. Ce que refusent en fait 90% des femmes dans l'espace public. Résultat, elles se maintiennent au-dessus de la
Qu'on squatte.
cuvette en espèce de semi-squat. Alors qu'il est démontré depuis 1991 que ça favorise les stagnations urinaires et donc l'apparition d'infections de cystite. Donc là, c'est un cas flagrant d'une mauvaise ergonomie où c'est l'utilisatrice qui s'adapte à l'objet plutôt que l'inverse. Et comme ça a un impact direct chez les femmes, moi, c'est ce que j'appelle une ergonomie sexiste qui ne prend pas du tout en compte les spécificités anatomiques et le désir d'hygiène des utilisatrices. Le deuxième problème, c'est que les cuvettes ne sont pas prévues pour l'accroupi complet.
Ça oui, c'est vrai.
Alors qu'il est démontré que c'est la seule véritable façon donc d'ouvrir le côlon et de déféquer sans avoir à pousser, à rajouter de la pression abdominale. Et cette surpression abdominale quotidienne, elle a un impact direct sur la santé des Occidentaux.
C'est-à-dire?
Bah, un tiers d'entre nous souffrons de constipation, un tiers souffre d'hémorroïdes. Passé 45 ans, les trois quarts d'entre nous avons souffert d'au moins une crise hémorroïdaire. La forme ronde de la lunette participe à ça parce qu'en fait, elle favorise la pression veineuse au niveau du postérieur et donc l'apparition d'hémorroïdes externes. Les deux tiers d'entre nous, passé 60 ans, avons les intestins déformés. C'est la diverticulose. Il y a des poches qui se forment avec le temps le long du côlon. Ces poches vont avoir tendance à s'enflammer. Dans un quart des cas, c'est la diverticulite et qui peuvent amener plus tard à des complications, notamment des cancers colorectaux.
Ah oui, donc ça veut dire que cette posture, au-delà du confort, ça amène des soucis, des grosses pathologies, des inconforts et des grosses pathologies.
T'as dit le mot vraiment juste, c'est confort. Parce qu'en fait, on a échangé un confort à court terme. C'est vrai, c'est plus confortable et plus, je dirais, acceptable de s'asseoir sur les toilettes. Mais en fait, on l'échange contre notre santé à moyen et long
Long
terme.
terme, ouais.
Et même, en l'occurrence, à court terme, parce que bah, cet impact sur la santé, elle n'a pas du tout le même effet chez les hommes et chez les femmes. Pourquoi? Parce que naturellement, les femmes sont beaucoup plus sensibles au niveau du système digestif. C'est lié au fait que le système digestif, que ce soit en médecine scientifique ou en médecine chinoise, est directement en lien avec le système hormonal et qu'il est beaucoup plus sensible et changeant chez la femme. Résultat, bah, vous êtes deux fois plus constipé que les hommes et vous êtes beaucoup plus sujette aux inflammations intestinales. Et ça a un rapport aussi direct avec la posture, parce qu'en fait, la nature étant bien faite, quand on s'accroupit, on s'enroule, un peu comme le tube de dentifrice qu'on enroule pour diriger efficacement la matière dans une direction. Et donc, en fait, on empêche la remontée de la matière fécale, notamment du gros intestin, à travers la valve iléo-cécale, jusque dans l'intestin grêle. Et s'il y a des bactéries qui n'ont rien à faire là, qui remontent dans l'intestin grêle, ça crée une grave perturbation du microbiote, donc une pullulation bactérielle. Et c'est là où l'infection commence, et donc l'inflammation, le fameux, par exemple, syndrome de l'intestin irritable, et ce qu'on va appeler tous les types de colopathie.
Donc ça veut dire que, attends, pause,
Ouais.
à cause notamment, parmi plusieurs autres facteurs, je suppose, mais
Évidemment.
notamment cette posture qui n'est pas adaptée, il va y avoir une stagnation des matières,
Oui.
parce qu'on ne peut pas les évacuer correctement, surtout avec les variations hormonales qui créent parfois une fainéantise aussi assez facile au niveau des intestins,
Ouais.
progestérone, tout ça. Et donc ça veut dire que les bactéries qui sont contenues dans le côlon peuvent remonter au niveau de l'intestin grêle par erreur.
En fait,
C'est
c'est
ça?
vraiment tout un tas de facteurs aggravants. Il y a effectivement la constipation qui va augmenter la pression. Et il y a un facteur vraiment anatomique de quand on s'enroule, quand on est vraiment en accroupi, le plus accroupi qu'on peut, le plus enroulé, on presse la valve iléo-cécale. Et donc, même si on doit rajouter de la pression parce qu'on est très constipé et qu'il y en a déjà de toute façon de la pression, elle va se diriger de manière plus efficace vers la sortie, vers le bas déjà, parce que la sortie est ouverte. Et en plus, parce
Logique.
que c'est fermé en amont.
Oui.
Alors que quand on est droit et qu'on pousse, ça ne fait pas du tout le même
C'est l'effet
effet.
inverse quasiment.
Et là, on risque effectivement de forcer déjà sur ses parois intestinales, donc de créer plus tard des diverticuloses, et de faire remonter de la matière fécale, comme tu l'as dit, là où bah, elle ne devrait pas avoir lieu, et créer là des symptômes réellement dérangeants. Il y a un sixième des Occidentaux qui souffrent d'inflammation intestinale. Et les femmes sont beaucoup plus touchées par ces problématiques-là.
Ok, donc c'est pas que l'alimentation, c'est pas que la grossesse, l'accouchement, etc. C'est aussi la posture, tout bête quoi, enfin, c'est tellement
C'est
bête.
tout en fait. Évidemment, c'est pas un remède miracle. C'est pas parce que demain tout le monde s'accroupit que les
Tout ira
symptômes
mieux.
tout disparaît. C'est tout un tas de facteurs aggravants. Et le vrai symptôme qui est pour moi vraiment à prendre en compte et malheureusement aujourd'hui hyper négligé, c'est la constipation. Si vous allez voir un médecin hein, pour vous plaindre d'une constipation, c'est très probable que ça vous amène pas à grand-chose parce que c'est complètement banalisé, c'est commun. Éventuellement, on vous prescrit du laxatif,
Laxatif, ouais.
mais on se rend pas compte qu'en fait c'est le point de départ d'autres pathologies beaucoup plus gênantes pour la suite et qu'il faut surtout pas la prendre à la légère. Et effectivement, que ce soit par l'hydratation, l'activité physique, évidemment tout le lien que ça a avec la stagnation émotionnelle que ça peut avoir, et déjà d'un point de vue purement mécanique, basique, prendre la bonne posture pour aller aux toilettes, c'est un faisceau de facteurs qui va pas du tout avoir le même impact chez une personne et chez l'autre. Il y en a qui ont des transits rapides, il y en a des transits lents, mais dans les grandes lignes, clairement, ça a un impact direct sur
Ils n'ont pas
la
aidé,
bonne
quoi.
santé.
Ouais.
Surtout dans un moment bah, très particulier de la vie, qui est la grossesse et le postpartum, où là, l'impact de la surpression abdominale, on ne parle pas de problèmes à moyen-long terme, c'est vraiment un impact très direct sur les douleurs et sur la santé directe de la femme. Il est démontré que la constipation entretient les lésions, donc déchirures, fissures, épisiotomies. Donc là, encore une fois, la constipation, surtout pas à prendre à la légère, favoriser le maximum possible la qualité du transit. Et puis il y a une statistique qui à elle seule, pour moi, exprime la faiblesse du plancher pelvien en Occident, c'est que malheureusement, passé 50 ans, 40% des femmes souffrent d'une descente d'organes, un prolapsus,
Mais oui.
principalement vaginal, mais aussi anal. Et là, on voit que, bah, encore une fois, l'ergonomie sanitaire, même si elle est délétère pour tout le monde, c'est vraiment les femmes qui en payent le prix fort dans leur quotidien, mais encore plus dans ce moment particulier, la grossesse et du postpartum, et qu'il n'y a pas du tout de prise en compte des besoins très spécifiques de la femme. Et donc pour moi, c'est clairement une ergonomie sexiste.
Oui, aussi lié à ces réalités physiologiques.
Bah ouais, parce que c'est pas du tout prendre en compte les fragilités, les besoins. Parce que le vrai cadeau de la posture accroupie, l'accroupi complet, c'est déjà que ça permet d'aller aux toilettes dans la meilleure des postures, et qu'en plus, ça permet d'aller aux toilettes sans avoir de contact du fessier. Et là, on arrive sur le troisième problème, qui est en fait pour moi l'origine, la cause réelle de tous les autres, c'est le tabou. C'est cette limitation, cette gêne sociale qui bride la communication sur le sujet et empêche en fait les solutions de se développer.
Bien sûr.
Par exemple, le pisse debout, c'est une solution très pragmatique, très directe au souci bah, de se maintenir au-dessus de la cuvette que 90% des femmes pratiquent.
Debout, c'est mieux.
Bah, debout, c'est beaucoup mieux. En fait, le plus important pour uriner, c'est pas forcément le cas pour déféquer, mais le plus important pour uriner, c'est d'être détendu. Donc, dans une posture debout, on est dans une posture d'équilibre et il vaut mieux uriner debout que dans une position inconfortable où on
Squat.
se maintient. Parce que là, les mêmes muscles qui sont censés se détendre sont contractés. Et en plus, on va se presser. Ouais, il vaut mieux carrément uriner debout. C'est pas habituel chez les femmes et il y a un peu de verrou aussi culturel par rapport à ça. Mais clairement, pour moi, il devrait y avoir un pisse-debout dans le sac à main de chaque femme. Oui, tout
Oui.
à fait.
Ce que je te disais, nous les Bretonnes, on est habitués avec les festivals parce que c'est pratique, parce que les files d'attente pour aller dans
C'est
les
ça.
toilettes qui sont souvent dégueulasses
Ouais.
ou payantes, ben c'est pénible.
Tout
Donc
à
c'est très
fait.
pratique, mais en fait, ce que tu dis, c'est que ça a un réel intérêt sur notre santé finalement.
Tout à fait. Déjà, ça vient apporter une solution très directe à cette
Camping.
inégalité homme-femme.
Ouais.
Ça offre la possibilité d'uriner debout, donc avec une plus grande liberté, sans avoir à dévoiler son intimité aussi. Que ça soit dans un environnement, je dirais, urbain ou plutôt naturel, voilà, se cacher entre deux portières de voiture, des choses comme ça, on est dans une position confortable. Et en plus, le pisse-debout rigide, comme celui que je propose, le style, on peut l'utiliser aussi à l'envers. Et donc, ça permet d'uriner en posture accroupie, sans avoir peur de salir ou sans avoir de soucis à viser quand on est accroupi sur Mulasana. Donc, il y a un double usage.
Ah oui.
Et donc, il s'accompagne de sa petite pochette de transport pour permettre de le transporter facilement, parce qu'évidemment, il existe des pistes debout à usage unique, mais d'un point de vue écolo, c'est pas le mieux. C'est tellement mieux d'en avoir un dans son sac à main. Il suffit de le rincer avec un coup d'eau, l'urine étant stérile. Normalement, il n'y a
Ça
pas
va
de
pas
souci.
proliférer,
Non,
ouais.
non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, mais si on l'utilise et qu'on le rince, il y a
Oui, t'as ta
aucun.
petite bouteille d'eau à côté, ça
Voilà, la
passe
petite
quoi.
bouteille d'eau ou un robinet, et puis
Ouais.
ça passe très bien.
Bon, génial, parce que Antoine m'en a offert un, donc j'ai hâte de l'essayer, hein, trop bien,
Génial.
trop cool. Mais et du coup, pour revenir un peu à la position accroupie, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre aussi, alors je sais pas si t'as l'info, hein, mais entre le fait que toute notre vie, depuis toute petite, en tant que femme, on est assis sur des cuvettes pas adaptées, et le risque derrière de déchirure à l'accouchement, de périnée qui va plus vite se fragiliser, tu vois, parce que en tant qu'accompagnante, j'ai tout à fait conscience qu'il y a des cultures dans lesquelles c'est beaucoup moins dur d'accoucher.
Ouais,
Hein, certaines cultures comme en Afrique, alors je parle
bien
pas de
sûr.
tout le monde et tout, voilà, je veux pas stigmatiser que ce soit les Occidentaux ou pas, mais on a quand même pas le même rapport au corps,
Bien sûr.
que ce soit pour danser, pour aller aux toilettes, pour accoucher. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre tout ça?
Ouais, évidemment, ouais, tout à fait. C'est hyper intéressant comme question. En fait, c'est que derrière l'oubli de la posture d'accroupi, elle n'est pas du tout, pour moi, aléatoire. Ça aurait pu être ça ou quelque chose. Non, c'est un symbole très profond de l'oubli qu'on a de notre mobilité primitive, de cette priorisation de notre
De
intellect
l'esprit,
par
ouais.
rapport à ce côté très animal, très matériel qu'est notre corps et tout ce qui symbolise. En fait, en yoga, en Ayurveda, le premier chakra, Muladhara, le chakra racine, quoi, qui se situe au niveau du périnée, c'est vraiment celui qui est renforcé par la posture d'accroupi complet. On l'utilise pour ça. On l'appelle Malasana en yoga, donc ça veut dire mala, on l'a poliment traduit en Occident par guirlande, posture de la guirlande. Mais en fait, mala, ça veut tout simplement dire impur, c'est la posture sale, la posture pour déféquer. C'est pour ça que moi j'ai choisi le nom Mulasana, comme dans Muladhara, parce que mula, ça veut dire l'origine, la source, et donc Mulasana, ça veut dire la posture originelle. C'est un peu redonner son prestige
Génial.
à cette posture qu'on a oubliée. Et donc, ouais, comme tu le dis, en fait, c'est que ça soit pour se mouvoir, tout simplement notre capacité de se mouvoir au sol, d'être à l'aise au sol, sans chaise, sans table. Bien sûr, il y a l'accroupi complet, mais il y a aussi le seiza, à genoux, à la japonaise, on a souvent cette image-là, d'être en fente, un genou au sol, de se mouvoir, de travailler au sol, ça on a oublié et ça nous affaiblit, ça affaiblit notre corps sur le long terme. Donc au-delà des bienfaits sur le transit, en fait, tout simplement, ça nous ramène à ce côté animal primitif
Très
qu'on a,
terrestre,
ouais,
bas.
qu'on a oublié et tendance parfois aussi un peu à dénigrer, à délaisser en Occident.
Oui.
Et puis tout simplement, tu parlais de l'enfance, toute notre éducation est faite pour valoriser au maximum nos capacités
L'intellect.
cognitives, intellectuelles très tôt. Et on apprend à faire des multiplications avant d'avoir appris à respirer, à se tenir debout, à se tenir assis, à aller correctement aux toilettes.
Ah, c'est ça, on va faire de la sophro, de la méditation pour réapprendre à respirer quand on est adulte, alors qu'en fait...
Moi, je passe mon temps à réexpliquer à des gens comment respirer, comment s'asseoir, comment installer leur poste de travail, ce genre de choses qui sont vraiment fondamentales. Et c'est très délicat d'apprendre ça à l'âge adulte, déjà parce que ça demande une sacrée remise en question et ouverture d'esprit. C'est facile de dire que non, on n'a pas à apprendre ça, un peu ce blocage de l'ego. Et même si on est vraiment volontaire pour le faire, ça demande un effort incroyable. Ouais. Alors qu'enfant, ça s'apprend facilement.
Oui.
Et le moment de l'enfant, il y a aussi ce moment-là très particulier où on est sur le pot. Souvent, en tout cas chez nous, où on est quasiment en accroupi complet, on est dans une bonne posture physiologique, et le moment qui coïncide souvent où on va rentrer à l'école, où on a envie qu'on fasse les besoins comme les grands,
et on nous met sur des
toilettes. Soit directement sur des toilettes adultes, avec ou sans réducteur, de toute manière, il n'y a aucun appui là au niveau des pieds, donc on passe à la pire posture possible, c'est-à-dire... uniquement à pousser avec l'abdomen, on ne peut pas se pencher en avant sinon on tombe en avant, et donc il n'y a plus aucune, anatomiquement, physiologiquement, c'est la pire position possible. Il y a ces espèces de gros rehausseurs hyper encombrants qui permettent aux petits d'avoir au moins un maintien au niveau des pieds. C'est mieux que rien, mais pareil, c'est beaucoup moins bien que le pot, surtout quand on sait, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, que un enfant, grâce à son faible poids et ses petits pieds, il peut s'accroupir complètement sur les lunettes directement. Il n'y a besoin d'aucun dispositif, c'est gratuit, c'est juste le temps d'apprentissage pour que vos enfants en fait, s'accroupissent sur la lunette. Et c'est pour ça en fait, que j'ai fait aussi le projet EasyPlouf, qui est un sous-projet de Moulasana, qui est donc un tabouret, un marchepied qui vient s'emboîter sur leur petite cuvette dans les écoles.
Ah oui.
Et qui permet aux enfants de s'accroupir complètement. Donc c'est expérimenté aujourd'hui dans la ville de Nantes, dans deux écoles. J'avais un coup de fil sur la route en arrivant. Je suis en collaboration donc, avec Léo Lagrange qui s'occupe de l'animation périscolaire à Nantes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était eux qui étaient beaucoup plus réceptifs à l'écoute et potentiels accompagnants de cette nouvelle solution dans les toilettes. Donc l'objectif, c'est de trouver 5 écoles d'ici la fin de l'année dans cette expérimentation-là donc, qui est financée par la ville de Nantes. Et derrière le projet EasyPlouf, il y a évidemment aussi contacter les parents d'élèves, et leur passer via le biais de cette vidéo cette information-là que vous pouvez prendre soin du transit de vos enfants sans investissement, très rapidement, juste en changeant, en créant cette nouvelle habitude. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes deux petits gars qui ont aujourd'hui 6 et 8 ans. Et voilà, très rapidement, ils sont autonomes, ils sont hyper mobiles, ils sont souples. En plus, c'est assez ludique pour eux. Les petits gars, ils se tiennent assez facilement le zizi vers le bas pour pas pisser partout. Je n'ai pas accompagné de petite fille. Là, le pisse debout pourrait être intéressant très tôt. Mais après, c'est aussi une histoire de position des pieds et de mobilité du bassin. C'est un peu vrai aussi pour les femmes. Le pisse debout, c'est vraiment la solution de facilité parce que comme ça, elles peuvent diriger facilement le jet d'urine vers le bas. Et sinon, c'est un petit peu du bricolage au niveau de la position du bassin. Mais apparemment, ça dépend un peu de l'anatomie de chacune. Parce que le jet ne part pas toujours dans la même direction.
Oui, le méridien peut varier.
Exactement, ouais. Donc,
mais
donc,
l'accroupi pour les urines, c'est bien.
Ouais, ça reste la meilleure des postures.
D'accord.
Pour l'accroupi, pour la défécation. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a une pression abdominale qui est optimale et naturelle.
Naturelle, une ouverture aussi.
C'est ça.
Les canaux sont...
Donc vraiment... spécialement pour déféquer, mais aussi pour uriner, c'est là où ça se fait. Enfin, en fait, on est des primates. L'entièreté des primates évacue en posture accroupie depuis 90 millions d'années. Donc jusque-là, pas de surprise, en fait. Si on modifie cette posture-là, évidemment, quoi, on est obligé de compenser en quelque sorte. Mais j'ai pas envie de dénigrer la posture assise pour uriner, parce qu'il vaut mieux uriner assis que dans cette espèce de maintien au-dessus, qui est vraiment pour moi le fléau aujourd'hui
Ouais.
qu'il faut adresser en urgence pour les femmes et les jeunes femmes.
Oui, la priorité, c'est déjà d'arrêter cette
Bah
posture de
déjà
fléau.
d'arrêter le pire, hein, d'arrêter
Oui.
le pire pour aller ensuite vers de
Le
l'idéal, de
meilleur.
l'accroupi complet, ouais, c'est ça.
Ouais. Après, presque le meilleur serait de raser nos cuvettes et puis de retourner accroupi par terre, quoi.
Bah oui et
Non?
non.
Non?
Pas,
D'accord.
en fait, le problème de la toilette turque, aux toilettes au sol, c'est qu'elle me laisse pas le choix de ma posture. Si jamais je souhaite m'asseoir, si jamais je dois m'asseoir, parce que ma mobilité me permet pas de m'accroupir, c'est super bien d'avoir une
Oui, quand
cuvette à
même.
40 cm de haut. Si moi je me casse le genou demain, je vais être très
Oui,
content
oui, oui.
d'avoir le choix de ma posture. Et donc en fait, l'idée c'est de. Bah, la proposition principale de Moulasana, c'est de mettre à jour les toilettes occidentales vers une ergonomie universelle et respectueuse. C'est-à-dire qu'il laisse le choix à l'utilisateur de sa posture. Et c'est le problème de la toilette occidentale aujourd'hui, c'est qu'elle laisse pas le choix de l'accroupi. Le problème de la toilette à la turque, c'est qu'elle laisse pas le choix de l'assis. Notamment, souvent, bah, elles n'ont pas de poignée murale comme dans le système que je propose. Et donc, du coup, pour les occidentaux, c'est hyper inconfortable. La poignée murale, elle offre vraiment cette capacité-là de faire un contrepoids, donc d'enlever cette peur de tomber vers l'arrière. Progressivement, les talons, bah, comme on s'est enraidi avec les années à force de s'asseoir, souvent, ils sont décollés du sol quand on cherche à s'accroupir, mais avec le temps, en fait, on transforme ces passages aux toilettes en petites séances de yoga, et puis bah, les talons redescendent, on s'assouplit, et comme on l'a dit, en fait, ça fait des bienfaits au-delà de faire bénéficier le transit, c'est que ça fait un vrai travail de mobilité, un enracinement, un renfort du chakra racine ou du périnée, du plancher pelvien, et tout simplement, ça fait du bien au dos, ça fait du bien au bassin, aux jambes, de s'accroupir tous les jours en passant aux toilettes. Moi-même, quand j'en ai pas besoin, des fois, surtout en fin de journée, même pour uriner, je pourrais uriner debout, mais non, je m'accroupis sur mes toilettes, je m'accroupis parce
Ouais,
que
tu
ça me fait
ressens le
du bien,
bienfait, quoi.
ça me fait du bien, ça me fait un vrai moment de pause, quoi. Donc c'est ça vraiment qui est au cœur de Moulasana, c'est cette réhabilitation de la mobilité primitive pour tous les bien-être que ça va apporter.
Ouais. Mais c'est hyper intéressant et je fais le parallèle avec les positions d'accouchement qui,
Bien
alors on
sûr,
parle
oui.
de Louis XIV, mais c'est aussi lui qui a insufflé la position allongée pour accoucher parce
Ah,
qu'il
je
trouvait.
savais pas.
Ouais, si, il trouvait super cool de voir Marie-Thérèse accoucher, mais du coup, accroupie, on voit pas grand-chose. Donc ni lui ni la cour ne peut voir le spectacle. Donc du coup, il a insufflé cette posture-là, puis il avait son médecin accoucheur, lui, et donc c'est plus pratique pour le gynéco. Et puis en fait, on a gardé cette posture royale, comme
Bien
tu
sûr,
dis,
ouais.
mais qui est complètement déconnectée des besoins physiologiques de l'enfantement, qui sont les mêmes, en fait. Mais juste, on n'accouche pas de selle, on accouche d'un bébé de 3 kilos. Mais c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, depuis quand même, je pense, une toute petite décennie, on commence à se dire, ok, c'est quand même pas logique de devoir rester allongé quand t'as des contractions qui deviennent extrêmement douloureuses. Ah ouf, il y a la péridurale, mais peut-être qu'en fait, juste laisse-moi bouger et laisse-moi aller au sol, ça ira un peu mieux. Même si, je dis pas que c'est toujours une partie de plaisir, même quand on est libre
Ouais.
de nos mouvements. Mais ça va de soi, en fait, le mouvement, la gravité. La gravité, c'est la base de pouvoir évacuer, en fait,
Bien sûr.
que ce soit le contenu de l'utérus, mais aussi des intestins, de la vessie. Donc tout ça, ça fait sens finalement. Et là où on réhabilite des postures d'accouchement qui vont être plus respectueuses du besoin de la femme à ce moment-là, bah finalement, toi, ta solution. Et oui, on parle de ta solution parce que ça m'embêterait de faire un podcast, dire bah voilà, faut pas qu'on pisse sur nos toilettes comme ça, alors prenez des marchepieds, mais ce que tu expliques, c'est que c'est pas optimal. Et donc toi, tu élabores des solutions en ce sens-là. Et ce que j'aime beaucoup dans ta démarche, c'est que en fait, tu as élaboré ce produit contre vents et marées, sans forcément avoir cherché un marché dans lequel investir. Mais en fait, c'est en regardant, bah, déjà en ayant l'expérience de tes voyages et en le ressentant dans ton corps, mais aussi dans ta pratique de shiatsu et ta passion, ta clientèle, je sais pas comment on dit, mais avec toutes les problématiques, et tu as relié les deux, c'est ça? Et donc, tu as réfléchi, hein, mais en fait, ça n'a pas de sens, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors, y a plein de pistes intéressantes à prendre dans la réponse. Mais ouais, à la base, en fait, ce qui m'a vraiment poussé Ah, si j'en suis encore là, parce que ça fait 5 ans en fait que je porte ce projet. Donc ouais, contre vent et marée, c'est vraiment la bonne expression. Contre tempête et tsunami, c'était vraiment. C'est encore aujourd'hui hyper dur. Je sais même pas en fait, pour être complètement honnête, si je vais pouvoir vraiment lancer ce projet-là, parce que
À grande échelle,
à
tu veux
grande
dire?
échelle, il faut des financements pour pouvoir se lancer. Et c'est extrêmement dur de bouger les mœurs. Le poids du tabou, il est énorme. Et c'est vraiment pas évident de percer dans un milieu qui est très masculin aussi, le milieu entrepreneurial. Il y a beaucoup de valeurs de compétitivité. Et ça reste un milieu très masculin. Dans la plupart des jurys que j'ai faits, c'était principalement composé d'hommes. Et donc pas évident. Il y a vraiment cette idée de la liberté. Donc quand tu parlais des postures d'accouchement, le parallèle, il est évident. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je m'adresse vraiment à des spécialistes de la périnatalité comme toi. C'est parce qu'il y a vraiment ce parallèle qui est déjà fait. Je sais que vous conseillez déjà le tabouret, mais surtout que vous avez conscience que d'imposer une posture aux femmes qui n'a pas de sens, qui physiologiquement est contre nature, c'est aussi une façon de brider. Bah de brider leur puissance en fait, que c'est une manière de les maintenir dans une case et puis finalement c'est un peu les hommes qui décident de ce qui est bon ou pas. Et pour moi en fait derrière le projet de la mobilité et de se réapproprier l'ergonomie des toilettes, c'est vraiment un projet d'empouvoirment féminin. C'est redonner bah, cette conscience-là, cette capacité-là aux femmes de dire bah, nous, aujourd'hui, on veut une ergonomie sanitaire spécifique parce qu'on a des besoins spécifiques, parce qu'effectivement, ça nous entraîne aussi pour l'accouchement, pour pouvoir s'accroupir complètement. Si on perd notre capacité d'accroupi complet, bah, ça va pécher le jour où on aura besoin de faire sortir un enfant. Et donc, il y a vraiment ouais, tout un tas de symboles par rapport à ça. Et en fait, si c'est si dur de mener ce projet à bien aujourd'hui, c'est parce que il y avait effectivement toute cette inertie sociale, ce tabou-là, qui rend l'évolution des pratiques. C'est pas juste des accessoires que je propose en fait. C'est vraiment d'aller percer bah, cet abcès du tabou et aussi de ce qu'il a mis en place, donc cette société occidentaliste, hyper masculiniste, très matérialiste sur le fait que voilà, il y a des protocoles, il y a des choses qui se font en place et il n'y a pas forcément d'écoute, en fait, surtout des spécificités de chacun et de prise de soins. Il n'y a pas de vrais soins aujourd'hui. En tout cas, c'est pas. Alors, ça revient à la révolution du bien-être et des méthodes parallèles ou alternatives. Ça dépend comment on les appelle. Moi, je préfère les appeler traditionnelles. Mais en tout cas, voilà, il y a une vraie réflexion sur. Comment est-ce qu'on prend soin de nous et à un moment, qui prend le leadership par rapport à ça? Et pour moi, aujourd'hui, Moulasana, c'est un projet qui pourra marcher que s'il y a des femmes qui s'en emparent. Pour moi, c'est un projet pour les femmes, clairement. Mais aujourd'hui, il faut que ça soit porté par des femmes. J'ai des premières collaboratrices, mais que ça soit d'un point de vue clientèle ou financement. J'espère rentrer au contact de femmes ou en tout cas de féministes de manière générale qui comprennent que en modifiant cette ergonomie sanitaire, c'est de l'empouvoirment féminin, on va redonner la parole et la liberté aux femmes et que derrière, en fait, il y a énormément de valeurs qui sont remises en question et une nouvelle façon aussi de faire du business de manière vertueuse et pas seulement pour se dire. Une rentabilité à court terme,
Oui, t'aurais
quoi.
fait autre chose, hein, de toute façon.
Ah bah clairement, j'aurais clairement fait autre chose ouais. Depuis 5 ans. Pour être honnête, je vis un petit peu de mes séances, mais surtout du RSA. C'est vraiment une galère. Je me suis pris des années et des années de refus de tous les incubateurs nantais, les réseaux d'accompagnement, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Donc là, ma seule sortie, ma bouée, pour pas que mon projet, bah, tout simplement, que je sois forcé à liquider, c'est une campagne de financement participatif que je compte faire sur Widowgood au mois de juin. Et donc là, je suis vraiment à la recherche de ce premier réseau. Il me faut au minimum 30 000 euros, mais ça serait beaucoup mieux d'avoir 50 000. Et c'est vraiment juste pour amorcer le démarrage du produit, la com, pour faire ensuite une campagne de précommande et percer le marché, comme on dit en approche business. Mais moi, tout simplement, je dirais faire un
Faire
coming
vivre.
out, quoi. C'est ça, montrer que ça existe, qu'il y a des gens, que ça intéresse et montrer que. Bah, cette population féminine, il y en a certaines qui aujourd'hui ont l'envie de faire changer les choses et s'approprient la proposition.
Ok, super. Donc là, pour les personnes qui écoutent, qui auraient envie de découvrir et de expérimenter aussi pour elles.
Oui.
Elle et eux, peut-être aussi
Bien sûr.
ton équipement. Bon, je vais mettre dans le lien de l'épisode, dans la description, pardon, le lien vers ton site. Là, tu es en mesure de pouvoir fournir tout de même des produits. On le précise quand même, hein, c'est plutôt d'ouvrir à grande échelle finalement le projet Moulasana et de le pérenniser. Mais là, voilà, si d'emblée vous avez envie d'expérimenter, bah, rendez-vous sur le site de Moulasana pour. Je crois que tu utilises des matériaux écologiques. Enfin, si tu veux en dire un peu plus sur comment
Tout à
c'est
fait.
fabriqué.
Alors, les produits. Donc, tout simplement, je propose 5 produits. Moulasana, donc le premier accroupisseur suspendu, le marchepied Moula Step et la poignée murale qui accompagne Moulasana. Tout ça, c'est fait à Nantes grâce à un procédé low-tech innovant. C'est la thermocompression des déchets plastiques. Donc, c'est vraiment de l'éco-conception. C'est des produits qui sont hyper robustes, durables. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs garantis 30 ans. Et je propose donc des pistes de boue rigides et des douchettes en inox, des douchettes manuelles pour se laver et goûter au plaisir d'une réelle hygiène. Donc aujourd'hui, si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez tout simplement déjà dans un premier temps aller sur les réseaux sociaux, liker, partager, c'est déjà une première étape. Ensuite, évidemment, on est dans un milieu de la finance, ils regardent qu'une chose, c'est les chiffres. Donc si vous voulez acheter et faire partie des pionniers, il y a les premières pièces qui sont en vente dès aujourd'hui, donc c'est possible de commander sur le site. Et puis après, il y a évidemment la participation éventuelle aux campagnes de financement participatif et à la future campagne de précommande à venir. Je suis aussi en recherche de terrain d'expérimentation, donc c'est-à-dire des cabinets pluridisciplinaires comme le tien, Edwige. Où ça peut être dans les maternités, dans les lieux de bien-être, les studios de yoga. Donc, si vous connaissez ou si vous-même vous faites partie de ce milieu-là et que vous pensez à des lieux qui pourraient être bah, des bons lieux d'exposition, des bons showrooms, n'hésitez pas à me contacter ou directement vous inscrire sur la page prescripteur de mon site qui vous permet donc de demander une expérimentation et de bénéficier aussi d'un code de réduction et de le faire bénéficier à vos clients ou à votre entourage.
Donc là, le code avec le lien qu'on a tous les deux, les personnes qui écoutent le podcast peuvent accéder aussi à une réduction de
De 10%.
10%, c'est ce que tu m'avais dit.
Tout à fait.
L'idée du. Enfin, je pense que les personnes sont assez grandes pour aller sur ton site, mais au niveau de tarifaire, qu'est-ce qu'on peut dire de cette installation?
L'idée, toujours pour moi, ça a été d'offrir une offre la plus abordable possible. Maintenant, ce sont des produits bah, faits avec un matériau, je dirais, noble et robuste. L'idée, enfin, vous pouvez avoir l'entièreté de l'ergonomie, les 5 produits, pour moins de 300 euros, 294 euros TTC. Pour les 3 pièces, donc le kit complet, juste donc sans le style, sans le pisse de boue et sans la douchette. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 234, mais à
Ouais, mais pour
vérifier.
avoir une idée quand
Voilà,
même
en ordre
des
d'idée,
tarifs, quoi.
c'est pas du tout. L'idée, c'est pas du tout de vendre des solutions à 1000
Ouais,
euros.
mais quand tu vois les toilettes japonaises qui coûtent,
Ah bah oui.
tu vois, donc de savoir un peu à quoi s'attendre finalement,
C'est
c'est des
ça.
installations durables. T'as choisi des matériaux aussi qui vont pas casser à la première
Ah
utilisation,
non,
quoi.
tout à fait. C'est ultra robuste. Ça va pas être facile à casser. Bon courage.
Merci. Ouais, bah c'est cool, c'est chouette et je suis très contente, j'ai trop hâte d'essayer. Pour être honnête, est-ce que c'est facile à installer?
Alors, l'installation, c'est facile à faire parce que il n'y a pas besoin de compétences particulières ou d'outils particuliers. Je parle pour Moulasana. Le marchepied, évidemment, on le pose et c'est terminé. Moulasana, ça s'installe au niveau de la lunette. Donc, il faut avoir accès par dessous au trou de fixation. Si vous avez accès par dessous, ce qui est le cas dans l'immense majorité des toilettes, vous démontez la lunette, vous posez Molasana sur la cuvette et vous vissez le tout et vous remettez la lunette au travers. Voilà, pour la poignée murale, bah, ça demande de faire des trous dans le mur,
Ouais, bon, ça
mais
va.
ça se fait. Et pour la douchette, parce que souvent il y a beaucoup de questions pour l'installation de la douchette, en fait il faut avoir une arrivée d'eau accessible, ce qui est souvent le cas, mais la tendance actuelle dans les nouveaux bâtiments, c'est de tout cacher
À
derrière une
l'intérieur.
cloison. Donc ça peut être fait s'il y a une arrivée d'eau par un petit robinet à côté, par exemple, ça peut être branché à ce niveau-là. S'il n'y a aucune arrivée d'eau, c'est vrai qu'à part faire un trou dans la cloison, sinon c'est pas possible de brancher la douchette aujourd'hui. Mais si vous avez la moindre question, c'est très facile, vous
Tout
prenez en
est.
photo et vous m'envoyez et je vous dirai exactement ce qu'il vous faut et ce qu'il est possible de faire.
Ok, bah écoute, c'est vraiment vraiment intéressant et merci. Bah merci pour toute l'énergie que tu mets aussi pour ce projet-là parce que bah finalement c'est du bon sens et ça me fait vraiment écho aussi à mon métier d'accompagnante qui. Beaucoup me demandent, mais c'est nouveau comme métier, mais tellement pas. En fait,
Ouais.
alors dans le monde occidental, oui, c'est nouveau. C'est vrai, si on s'en rapporte à l'échelle de, comme tu dis, les années 50, 60, bah oui, on avait un peu supprimé tout ce côté alternatif, parallèle, mais qui finalement est plus traditionnel. On a besoin de quelqu'un à côté de soi aussi pour pouvoir échanger sans forcément avoir besoin d'une thérapie ou voilà.
Ouais.
C'est pas que du médical, tout ce qu'on vit dans la maternité, c'est une véritable transformation et d'avoir quelqu'un qui est là pour nous épauler, c'est quand même pas. Un grand luxe, mais voilà, on s'imagine que c'est un peu une lubie moderne. Bah là, finalement, ce que tu as comme initiative, c'est ça aussi. C'est, ça paraît complètement dingo pour quelqu'un qui est jamais sorti de son monde occidental et qu'on vit depuis 3 générations. Donc, tu vois, chez tes grands-parents, c'était déjà des toilettes comme ça. Bon, j'ai connu mon arrière-grand-mère, mémé Germaine, c'était pas comme ça. Mais faut revenir vraiment.
S'appelait aussi Germaine, la mienne.
Ah, c'est drôle. Et alors, est-ce qu'elle avait des toilettes modernes ou elle avait son pot de chambre?
C'était plutôt le côté un peu bourgeois là, donc
Ah
je
ouais,
pense
d'accord.
que, mais sûrement que dans sa jeunesse, de toute façon, l'immense majorité
Ouais.
de nos arrière-grands-parents, ils avaient des toilettes, c'était soit le trou au fond du jardin,
C'est
soit
ça.
le pot de chambre,
Le
quoi.
pot de chambre, c'est ça. Mais il y a une différence entre la bourgeoisie, le côté très. Moi qui suis bretonne, t'allais dans les hameaux en Bretagne, jusque dans les années 90, t'avais des toilettes dehors.
Ouais, bien sûr.
Mais effectivement, quand tu grandis en ville, c'est pas comme ça. Et finalement, bah, on se rend compte que. Même les bouillons en postpartum, c'est des transmissions que je partage aujourd'hui. On se dit, ah bon, des bouillons d'eau, le truc que ma grand-mère faisait que je détestais. Bah finalement, c'est ça qui restaure. Ah ouais, donc tu peux acheter ton petit pot de bouillon à 8 balles qui est très très cher, ou alors tu peux le faire toi-même,
Bien
au
sûr.
choix. Et finalement, bah, on restaure un peu quelque chose de simple et de logique, sans forcément dire que le monde occidental c'est de la merde et faut cracher dessus. On a plein d'avancées sanitaires, technologiques, un
Bien sûr.
confort moderne qui est super, mais c'est de retrouver en fait du bon sens sur nos besoins de base d'être humain, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est vraiment ce côté-là de privilégier quelque chose au détriment d'une autre qui n'est pas du tout une fatalité, mais qui est vraiment à la racine de notre courant occidental. Le siècle des Lumières, des raisons, ça a été vraiment une façon de complètement sortir de millénaires où tout a été géré par la religion, la foi, les croyances. Sous prétexte de Dieu, on a fait tout et n'importe quoi. Donc il y avait vraiment cette volonté de se soustraire à cette condition-là. Mais qui est devenue en elle-même, pour moi, finalement, une autre forme de croyance et de
Extrême.
religion et extrême, où tout ce qui ne rentre pas dans l'aspect purement scientifique est complètement dénigré, délaissé, n'a plus aucune raison d'être. Et du coup, on s'est coupé en Occident de toute cette sagesse intuitive, de tous ces enseignements qui nous ont été transmis depuis longtemps. Et en plus, si on va vraiment du penchant extrême et qu'on s'intéresse vraiment à la science, moi je suis très, enfin, c'est un sujet qui me passionne, mais quand on commence à arriver vers la mécanique quantique, et en fait, on se rend compte que tous les fondamentaux scientifiques, on est incapable de dire où se situe une particule en fait. Donc, le simple fait de croire que la matière, c'est du solide noir sur blanc et qu'on est capable de dire quelle est la vérité, quelle est la position des choses, en fait, quand on tombe dans une certaine forme d'extrémisme, même d'un point de vue purement scientifique, on se rend compte que bah, c'est pas si simple d'avoir des vérités
Tu peux pas aller au bout,
absolues.
quoi.
Voilà, tu peux pas aller au bout. Et puis surtout, le principe même, ne serait-ce de la posture scientifique, c'est de rester normalement
En
ouvert
doute.
sur tout ce qui n'est pas tout simplement prouvé. Et puis même le mécanique de prouver, aujourd'hui, il y a, notamment dans le milieu médical, il y a énormément de façons de faire, de biais, de choses comme ça. Et en fait, c'est compliqué. Bah, on voit par exemple la diététique, par exemple, il y a tout et n'importe quoi. On est capable de trouver des théories complètement opposées à chaque fois. Et donc, finalement, quand on se retrouve juste en tant qu'individu pris au milieu de tout ça, bah, je crois que ça nous rappelle à notre bon sens, comme tu l'as dit à un moment, est-ce qu'il n'y a pas une sorte, encore une fois, d'intuition de ce qui est bon, pas bon, et puis de comprendre aussi que chacun est particulier. Moi, je me méfie toujours des recettes toutes faites, quoi.
Ouais,
Si
des méthodes, des protocoles.
prenez ça, ça vous fait du bien pour la santé, bah non, tu vas toujours trouver un cas où prendre ce
Ça sera
produit-là,
pas bon pour cette
ouais.
personne-là.
À part peut-être exception de l'eau, et encore, tu peux penser à une colique
Ouais.
particulière, mais voilà, de manière générale, en fait, il faut faire dans le particulier, il faut surtout, je pense, retrouver son écoute. Et quand on est habitué à l'accroupi complet, et faut aussi penser au côté opposé, où partout dans le monde, on installe des cuvettes occidentales, ou alors les étudiants ou les voyageurs qui arrivent dans le monde occidental et qu'on force à changer d'habitude, alors qu'eux, ils n'ont pas perdu cette bonne habitude-là. Et bah, ça permet aussi de, et c'est ça, c'est une histoire d'ouverture par rapport au monde et d'autres façons de faire. Ça permet aussi de se rendre compte. Je pense que le meilleur, et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'expérimentation des solutions, c'est qu'il faut se faire un avis par soi-même, il faut tester. Et moi, je suis certain que si on laissait la possibilité de tester 2, 3 semaines à beaucoup de personnes, il y aurait beaucoup de gens qui seraient convertis de manière assez naturelle, quoi.
Oui, par empirisme, comme toi, tu as pu le faire quand
C'est
tu as
ça,
voyagé, en fait.
tout à fait. Ouais. C'est juste un moment, une question d'écoute de ce qui se passe. Mais ça demande de passer ce premier mur où on se dit, ah, Berk, c'est chelou, c'est
Ouais,
crado,
ouais.
c'est étrange. Oh non, 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 moi je veux mon confort habituel. C'est une histoire d'habitude, l'homme est un être d'habitude.
Oui, l'homme occidental particulièrement, mais c'est ouais, c'est la réflexion est hyper intéressante et. Pour conclure, quand même, l'anecdote, c'est qu'on parle beaucoup des femmes et ça fait sens par rapport à tout ce que la femme peut traverser dans sa vie de femme. Mais le marchepied, je l'ai découvert chez un pote. J'étais en postpartum pour ma deuxième fille, pas encore formée à l'accompagnement périnatal et j'avais jamais entendu parler même du marchepied, quoi. Tu vois, c'était en 2015, hein, ça date. Et j'ai vu ça dans ses toilettes, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Et puis il m'a expliqué quoi, il me dit bah pour aller aux toilettes c'est vachement mieux finalement, mais en tant qu'homme il l'utilisait lui, et c'est lui mais qui m'a converti au marchepied, tu vois. Et j'ai pigé même dans mon corps en me disant bah oui effectivement c'est vachement mieux. Et donc tu vois, pour l'anecdote, c'est très bien aussi pour les hommes, comme tu dis, il n'y a que 10% des hommes qui le font. Peut-être parce qu'ils voient moins vite l'intérêt, et puis parce que c'est beaucoup moins un sujet pour les hommes, mais les hommes aussi ont un périnée. Donc finalement, ça, c'est pas parce qu'une femme va l'installer chez elle que l'homme va pas forcément pouvoir l'utiliser, même si peut-être que le tabou est encore plus fort, je pense, du côté masculin. Mais en fait, faut essayer, quoi. Faut s'y mettre.
Ouais, tout à fait. Il y a vraiment ce. Bah, de toute manière, les troubles du transit, ils touchent aussi les hommes, notamment les hémorroïdes. Les hommes, c'est une des rares pathologies qui touche autant les femmes que les hommes. Donc y a vraiment un mieux-être à aller chercher, évidemment, du côté homme. Moi, je vois, je suis plutôt dans la case transit lent, et clairement, ça fait. Si j'avais pas l'accroupi complet, bah, je me rends compte aujourd'hui que bah, je vis beaucoup moins bien, tout simplement, ma vie, parce que avoir un mauvais transit, c'est pas juste passer un mauvais moment aux toilettes, au contraire, c'est être mal tout au long de sa journée, en fait. C'est se sentir mal, et quand on a mal au ventre, c'est le début de la fin, je dirais. On va pas être présent à notre boulot, avec nos enfants, sur tout le
Ouais,
reste. On va être de mauvaise humeur, hein. Avoir une tête de constipé, c'est pas qu'une image, c'est vraiment, ça nous met dans un mal-être, être mal avec son ventre. Tu parlais de danser, mais je pensais évidemment à faire l'amour, être bien dans son corps, être bien dans le partage. Bah, avec un mauvais transit,
t'es bloqué, quoi.
c'est vraiment, c'est ça, ça te coupe en deux. Et évidemment que ça peut être porté par les hommes, je dirais, des hommes qui voient l'intérêt aussi des femmes. Moi, je crois énormément aussi au moment de la naissance, aux hommes qui veulent prendre soin du périnée de leur femme, ou en tout cas leur offrir le mieux possible, et qui d'eux-mêmes viendraient installer cette solution à la maison. Ça, j'y crois beaucoup, une fois que c'est bien sûr un peu connu. Mais je pense quand même que c'est les femmes qui subissent évidemment
Bien sûr.
l'ergonomie Mais il n'y a pas que l'ergonomie, c'est que le poids du tabou, de la gêne sociale, est tellement plus développé chez les femmes et surtout chez les jeunes femmes. Aujourd'hui, il y a une femme sur deux qui, quoi qu'il arrive, n'ira pas à la selle, n'ira pas déféquer sur son lieu de travail ou dans un lieu public. Et donc ça, c'est pareil, c'est une multitude de facteurs. Il y a la pure gêne, le pur tabou, le pur côté, j'ai pas envie qu'on me surprenne dans ce moment d'intimité-là. Mais il y a aussi évidemment le fait que ça suppose encore une fois le contact du fessier et qu'en plus, du coup, ça me maintient dans une posture qui est absolument contre-physiologique. Donc moi, je crois que d'avoir une meilleure ergonomie et d'avoir la possibilité de ne pas poser ses fesses sur les toilettes, déjà, ça ne peut que favoriser. Mais au-delà de ça, c'est que le mouvement même d'amener une nouvelle ergonomie, ça suppose une discussion. Je parle dans un contexte public, une entreprise, une collectivité, c'est que ça demande forcément, pour pouvoir l'installer, d'avoir ouvert le débat dessus. Est-ce qu'on installe ça dans mes toilettes? Qui est pour? Qui est contre? Comment on fait? D'amener ça potentiellement dans une réunion. Et ce simple mouvement-là,
Ça
même
devient un
s'il
sujet,
n'aboutait
quoi.
pas, ça devient un sujet. Et c'est ça pour moi qui aujourd'hui qui va amener le plus de bien-être en fait. C'est de libérer la parole, libérer le tabou, percer cet abcès-là. Et ça peut être amené par les hommes. Et je dirais même ça doit être amené par les hommes parce que c'est le poids est tellement fort sur les épaules des femmes. C'est le poids sociétal, quoi. Soit belle et tais-toi, et un peu ce côté-là. Et surtout, toi, tu fais pas caca, t'as pas de gaz. Et donc, du coup, que ça soit amené par des hommes qui libèrent la parole à ce niveau-là, je pense ça va être plus facile pour eux d'amener ça, et en fait, ça va faire beaucoup de bien. Ça ne peut faire que du bien. Et c'est une vraie façon de prendre soin du féminin. Comme le masculin qui prend soin du féminin. Et dans masculin-féminin, j'inclus pas homme ou femme. C'est vraiment
L'énergie.
les énergies, les polarités. On est tous une somme de masculin et de féminin. Mais déjà, à l'intérieur de nous ou en société, je pense que le masculin ici peut vraiment faire du bien au féminin en prenant soin et en le libérant, en fait, en le laissant prendre son pouvoir et la forme qu'elle désire.
C'est beau. C'est beau. Je t'écouterai pendant des heures. J'adore. Trop bien. Ouais. Donc en cadeau de naissance finalement, ou une attention pour les couples hétéros, hein, j'entends, ça peut être aussi une belle attention au-delà de je t'offre un beau bouquet de fleurs, ma chérie, parce que t'as mis au monde notre bébé. C'est très trivial, mais en fait au quotidien, on va aux toilettes. Et ça, c'est une vraie réelle preuve d'attention et de respect aussi.
C'est marrant que tu dis ça parce que c'est une idée que j'ai pour une des publicités, le fameux bouquet de fleurs et la déception qui se lit sur le visage de la jeune maman. Ah, mais si seulement il m'avait apporté un moulassana, ouais, c'est tout à fait ça. Bon, après,
Tu cherches des idées de com', moi j'ai de la matière dans ma tête.
coupe hétéro ou pas, parce qu'en fait, on a tous vraiment intérêt à prendre soin de son périnée. Et
C'est ça.
je pense notamment les homosexuels hommes. Enfin, moi, j'ai plusieurs amis et je pense qu'ils sont beaucoup plus, eux, en contact et connectés à leur santé et leur bien-être, dans la plupart des exemples,
Ce
en
que
tout
tu as
cas,
pu
moi, ce que je
vérifier.
connais, ouais. Et il y a moyen que. Enfin, en tout cas, je crois que c'est une piste intéressante à suivre pour améliorer. Je suis sûr qu'ils seraient beaucoup moins fermés que nous pour changer, tester ces solutions-là pour prendre soin d'eux et de leur périnée. Ouais, tout à fait.
Bon, est-ce que tu as autre chose à ajouter ou tu penses avoir fait le tour?
Bah, je pense que là, on a vraiment fait
On est pas
un
mal,
tour
hein?
hyper intéressant. Je voulais te remercier
Avec
de ton
plaisir.
invitation et de ta confiance. Et j'espère que ça va amener plein de collaborations futures.
Ouais, j'aimerais bien, je discuterai avec les filles pour déjà installer Moulasana au futur cabinet qui nous appartiendra et qui va voir plein de femmes dans la période périnatale, même des mamans, juste voilà, même si elles ont déjà eu leurs enfants. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, si vous venez au moment où j'enregistre, je suis pas encore dans le pôle, mais quand vous viendrez, il y aura très probablement du moulasana à traîner dans les toilettes pour expérimenter. Je mets le lien encore une fois dans la description de l'épisode vers ton site internet qui est
Ouais.
bien fait, qui est bien. J'ai bien compris tout ce qui, voilà, tout, pas tout ce que tu as évoqué, mais en gros l'utilité des produits, en quoi ça consiste. Le code promo aussi, je le mettrai dans la description de l'épisode. Revenez vers moi si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter ou quoi. Enfin, on peut discuter. Puis avec toi aussi, je peux mettre le lien vers tes
Évidemment,
réseaux.
il y a aussi les vidéos tutoriels d'utilisation, d'installation. Et toute une synthèse de la bibliographie scientifique sur le sujet, parce que Malheureusement, comme ça parle de transit et de toilettes, c'est souvent pris à la légère. Donc, par exemple, si vous souhaitez proposer ça chez vous ou à des amis, très probablement, ça va être pris à la rigolade très rapidement. Et ça demande en fait un vrai argumentaire pour démontrer que, bah non, il y a un vrai sujet là, il faut qu'on s'en
C'est
occupe,
malin.
c'est même urgent. Et puis voilà, apprendre à aller aux toilettes accroupi, encore une fois, ça s'apprend. C'est une technique. Alors, c'est pas la mer à boire, hein, ça se fait assez facilement en vrai, mais il faut oser, un peu comme apprendre à s'asseoir ou se tenir debout, il faut oser se remettre en question et se dire, ok, je suis adulte, mais peut-être que je vais apprendre un fondamental qui est aujourd'hui d'aller aux toilettes accroupi. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dédiée à ça.
Ok, et eh ben on va partager tout ça. Merci Antoine, c'était vraiment très chouette, je suis trop contente. Et puis j'ai appris plein de trucs, donc merci bien. Et puis à la semaine prochaine pour les auditrices et les auditeurs. Et puis bonne découverte de Moulasana à vous si vous souhaitez franchir le cap. À bientôt.
Merci beaucoup.
Comme je vous le disais dans l'introduction de l'épisode, j'ai eu l'occasion de commencer à tester le Moulasana. Et sans plus attendre, je voulais vous faire un petit retour d'expérience parce que c'est quand même un dispositif très particulier qui demande une installation et un changement d'habitude. Et ça, c'est vraiment important que je vous le dise. Si vous avez envie de franchir le cap et de tester ce matériel, eh bien voilà, vraiment, c'est l'idée, c'est pas juste je rajoute un gadget dans ma maison. Il y a vraiment cette idée de changer nos habitudes. Et au début, je vous avoue que c'était un peu décontenançant parce que il y a une recherche d'équilibre à trouver. Et j'avoue que je fais partie des gens qui regardent pas trop les tutos et les notices avant d'utiliser quelque chose. C'est pas bien, mais je suis assez comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une bêtise parce que vraiment là il y a une installation très précise et très. Que ce soit l'installation du matériel, bon, je me suis fait aider par monsieur bricoleur à la maison qui s'est très bien débrouillé, mais. Même dans l'utilisation, et j'avoue que je me serais vite découragée si j'avais pas fait un SOS à Antoine en me disant, mais attends, je pisse partout, c'est quoi ce bordel? Et j'ai dû re-regarder, enfin regarder, pour être honnête, jusqu'au bout son tuto, et après j'ai fait, ok, en fait je fais n'importe quoi. Donc voilà, il y a un truc qui est un peu pas instinctif au début. Mais au final, je vois effectivement que mon corps arrive à poser les talons sur le Moulasana, qui a deux plateformes en fait pour poser les pieds, et ça fonctionne vraiment bien. Donc, alors moi, j'y vais pas forcément pour les urines parce que je trouve pas ça hyper pratique, très honnêtement. Voilà. Après, c'est à chacune de voir parce que bah chacun, c'est plus facile quand on a un pénis finalement. Mais voilà. Donc regardez bien le tuto. Si jamais vous souhaitez passer le cap de vous offrir un Moulasana, Antoine, je suis sûre qu'il vous enverra toute la doc qu'il m'a envoyée. Et il y a un tuto, regardez-le jusqu'au bout pour pas avoir ces débuts un peu chaotiques. Et dites-vous que votre corps, il s'habitue à la position accroupie. Moi qui fais du pilates toutes les semaines, au début, les premières fois, j'étais un peu raide et finalement, mon corps s'est très très bien adapté. Donc voilà, ne vous découragez pas, c'était vraiment le message que j'avais envie de transmettre. Ça demande, c'est pas très long, hein. Ça demande pas une persévérance sur une semaine ou un mois, c'est vraiment les premières fois. Ça peut paraître bizarre et on se dit « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et en fait, je regrette pas du tout. Voilà, peut-être que je vous ferai un autre retour d'expérience au bout de quelques semaines, mais le mien après quelques jours est celui-ci. Donc j'avais envie de vous le partager quand même, ne pas vous laisser juste avec l'épisode et puis hop, je saute à l'aveuglette. C'est bien aussi d'avoir un retour de quelqu'un qui utilise le matériel, quoi. Voili, voilou. Eh ben. Peu importe, j'ai envie de dire ce qui sera bon pour vous à l'avenir, même si c'est ben, le marchepied, si vous ne l'aviez pas dans votre quotidien jusque-là, c'est parfait, enfin, c'est vraiment très très bien. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin et de tester l'accroupi, eh bien dans ces cas-là, voilà, rendez-vous sur le site d'Antoine en description. N'hésitez pas à le contacter, il est très ouvert aussi à la discussion. Donc voilà, faut pas vous bloquer et voir ça comme une proposition commerciale qui va faire que faut pas se retourner. Non, c'est un cap à franchir qui est pas forcément évident comme plein de choses dans la vie. Donc, voilà, c'est une proposition. Peut-être que vous en avez envie maintenant. Peut-être que c'est pas pour vous aujourd'hui. Peut-être qu'un jour ça vous parlera. Bref, peu importe. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir que ça existe. En tout cas, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne sais pas comment va évoluer l'entreprise d'Antoine. J'espère que ça va se pérenniser parce qu'il y a un vrai intérêt derrière. Et quoi qu'il en soit, ayez compréhension et conscience de cette posture et de ses bienfaits finalement, qui sont de l'ordre du bon sens dans la pratique humaine en fait, hein, dans le corps humain. Et voilà, j'avais envie de vous partager la difficulté que j'ai eue en tant que femme occidentale qui n'a jamais eu pour habitude de se mettre accroupie pour aller aux toilettes. Au début, vraiment, c'est très bizarre. Et ouais, ça m'a vraiment mis face au fait que je suis vraiment conditionnée depuis toujours à quelque chose de très artificiel, quoi. Donc c'est intéressant aussi, je trouve, de parler de ça.
Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edvige@untempsournaître.fr. À bientôt.